Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Des milliers d'opposants à l'avortement ont manifesté dimanche à Paris, suscitant un certain intérêt médiatique. Les manifestants qui se sentent poussés des ailes avaient reçu le soutien du pape François. Nous reviendrons sur ce dossier dans ce magazine. Les archives secrètes du Vatican continuent, elles, de susciter un réel intérêt médiatique, surtout en ce qui concerne la période de la Deuxième Guerre mondiale. Les propos tenus par un rabbin ont eu un vaste retentissement. Rien de bien nouveau pourtant, nous allons le voir. C'est la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Nous tournerons nos regards vers Constantinople. Le patriarche œcuménique veut rassembler les églises orthodoxes menacées de particularisme et de repli sur soi. Les archives secrètes du Saint-Siège relatives au pontificat de Pie XII pourraient être ouvertes au public à brève échéance. C'est le rabbin argentin Abraham Scorca, ami de longue date du pape François, qui l'a affirmé à la presse à la suite de sa visite à Rome ces jours derniers. Ces archives, vous le savez, suscitent un intérêt particulier pour ceux qui souhaitent faire la lumière sur l'attitude de Pie XII et de l'Église pendant la Shoah. Antonino Gallofaro.
Certains historiens reprochent à Pie XII ses silences, en particulier lors de la déportation des Juifs romains le 16 octobre 1943. D'autres rappelle au contraire que sous l'impulsion du pape, des églises et des couvents ont caché des milliers de juifs qui ont ainsi échappé au camp de concentration. Selon le rabbin Scorca, le Saint-Père a résolument opté pour la transparence. La question est selon lui délicate et il faut continuer à l'analyser. L'Église, écrivait-il en 2010, ne doit pas avoir peur de la vérité. Mais en fait, comme l'a précisé le directeur du bureau de presse du Saint-Siège, ce travail a déjà commencé. Le père Federico Lombardi a rappelé qu'en 2010 déjà, le préfet des archives secrètes du Vatican, Mgr Sergio Pagano, avait évoqué un délai de 5 ans. Mgr Pagano avait cependant averti que certaines expectatives risquaient d'être déçues. Selon lui, il n'y a pas dans ces documents encore réservés d'informations révolutionnaires sur la question. De nombreux documents très révélateurs ont déjà été publiés, notamment en Allemagne et en France, sauf que personne ne les lit, avait encore regretté le préfet. Rien de nouveau à signaler, donc, selon le père Lombardi, l'ouverture a été programmée, mais elle requiert des temps techniques de préparation pour permettre la consultation de millions de textes qui doivent être numérotés et enregistrés. Cela demande beaucoup de temps.
Le patriarche œcuménique de Constantinople a créé la surprise il y a quelques jours en convoquant tous les primats des églises orthodoxes au mois de mars au siège du patriarcat à Istanbul. Bartholoméos Ier, qui bénéficie de la primauté d'honneur au sein de l'orthodoxie, veut accélérer les préparatifs du synode panorthodoxe programmé en principe pour 2015. Le saint et grand concile, tant de fois reporté. Audrey Radondi.
Une commission est au travail depuis trop longtemps. Le patriarche Bartholoméos veut faire le point et rassembler. Pour faire face aux défis urgents lancés par la globalisation, les églises doivent, selon lui, faire front commun et éviter les particularismes et les nationalismes qui caractérisent le monde orthodoxe. Selon le métropolite de Bergame, Jean Zizioulas, théologien de renom, le monde orthodoxe risque l'introversion, le repli sur soi. Pour lui, l'orthodoxie a besoin de vivre une expérience synodale importante, comparable à ce que fut le Concile Vatican II pour le catholicisme, si elle ne veut pas s'enfermer dans le ghetto de sa propre auto-marginalisation. Jean Zizioulas pense que le plus grand danger pour le monde chrétien n'est pas l'athéisme ni le pouvoir séculier, mais le refus de regarder la réalité en face et la recherche perpétuelle de sa propre identité dans un passé prestigieux, des tendances entretenues par certains membres du clergé. Bartholoméos Ier, qui est par ailleurs très attentif aux ouvertures œcuméniques, veut profiter du dynamisme insufflé par l'élection du pape François pour susciter également un renouveau au sein du monde orthodoxe.
C'est l'agence de presse Église d'Asie qui l'a annoncé. Le mouvement des femmes chrétiennes indiennes a été lancé officiellement à Bangalore, dans l'état du Karnataka. À l'origine de cette initiative, plus d'une centaine de religieuses et de laïcs de différentes confessions chrétiennes réunies dans la capitale de cet état du sud de l'Inde à l'occasion d'un congrès national sur la place des femmes dans l'Église depuis Vatican II. Hélène Détombe.
Cette nouvelle organisation, dont la création était souhaitée depuis longtemps par bon nombre de confessions chrétiennes,
s'est donné des objectifs ambitieux, lancer un message en faveur de l'émancipation et de la dignité de la femme, redécouvrir le rôle fondamental des femmes dans l'Église en sortant de la subordination ou de l'infériorité, et enfin réaffirmer l'importance et la contribution indispensable des femmes au sein de la société indienne où subsiste une mentalité archaïque et patriarcale, à l'origine de nombreuses séries de viols perpétrées en toute impunité. Parmi les promoteurs, la Commission pour les femmes de la Conférence épiscopale de l'Inde. Les conférences et les échanges étaient placés sous le thème « La condition féminine » à la lumière de Vatican II. Les intervenants avaient appelé dès le début du congrès à se délester de l'habituelle mentalité patriarcale pour s'ouvrir à un nouvel état d'esprit, laissant sa place à la femme. À la base des interventions, les nombreux documents émanant du Saint-Siège et portant sur les aspects théologiques mais aussi ecclésiastiques de la participation des femmes à la vie de l'Église, sa gouvernance et sa mission. Objectif : valoriser la participation des femmes à la vie ecclésiale ainsi qu'une meilleure considération de la condition féminine.
Et je vous rappelle qu'on célèbre jusqu'au 25 janvier la semaine de prière pour l'unité des chrétiens sur le thème « Le Christ est-il divisé ?». Une fois par an, cette semaine de prière s'intègre dans la vie des paroisses du monde entier. On procède à des échanges de chaires et on organise des cultes écuméniques spéciaux. Ce jeudi à Rome, les représentants des différentes confessions chrétiennes se retrouveront dans une église paroissiale pour demander ensemble le don de l'unité. La liturgie sera présidée par un des évêques auxiliaires de Rome. L'homélie sera proposée par un pasteur anglican, des représentants du patriarcat écuménique, des luthériens, des méthodistes seront présents. La quête sera faite au bénéfice de la prison romaine Rebibbia. Les divisions engendrent un déficit d'espérance. Les églises et les communautés ecclésiales veulent s'unir pour faire face aux défis communs. Samedi, le pape François se rendra à la basilique Saint-Paul hors les murs pour la célébration des Vêpres qui conclut traditionnellement cette semaine de prière à Rome. La marche pour la vie a donc rencontré un certain intérêt médiatique dimanche à Paris. 45 000 personnes ont défilé selon les organisateurs, 16 000 selon la police. En ligne de mire du mouvement, un amendement en discussion cette semaine à l'Assemblée nationale qui prévoit de durcir le délit d'entrave à l'IVG. Les associations catholiques d'aide aux femmes en détresse qui leur proposent des alternatives à l'interruption volontaire de grossesse pourraient se retrouver dans le collimateur de la justice. Elles risqueraient des peines allant jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Une direction totalement inverse est prise actuellement en Espagne où, au contraire, les parlementaires débattent actuellement d'un durcissement des conditions d'accès à l'IVG. Ce pays était dimanche à l'honneur dans le cortège parisien aux couleurs rouge et or du drapeau espagnol. Virginie Mercier, porte-parole de la Marche pour la vie, tient à s'appuyer sur l'écho médiatique suscité par la manifestation pour remettre la question de l'IVG au cœur des débats. En France.
Nous manifestons maintenant pour la 9e fois depuis 2005 et cette année vraiment la mobilisation est importante, donc nous nous en réjouissons. Nous pensons que les manifestants ont su reconnaître l'urgence à se mobiliser. Nous brisons un peu le tabou de l'avortement, de la vraie question de l'avortement et encore une fois de la question de la détresse des femmes derrière l'avortement, de cette souffrance post-avortement. Nous nous réjouissons aussi de cette couverture médiatique, probablement aussi grâce à l'audace espagnole. Nous sommes en pleine actualité. Je pense que l'on a pu répondre à l'argument que l'on nous opposait jusqu'à maintenant, qui était « ce n'est pas un débat d'actualité ». Alors qu'aujourd'hui, on voit bien que la marche pour la vie s'est inscrite en pleine actualité. Donc je crois que c'est pour cela que nous avons bénéficié d'une plus grande couverture médiatique que les années précédentes.
Et alors, au-delà de l'événement ponctuel d'hier, comment vous comptez peser ? Est-ce qu'il y a des députés à l'Assemblée actuellement qui relaient vos positions ?
Malheureusement pas assez. Nous allons observer avec attention dans les jours qui viennent ce qui va se vivre dans l'hémicycle, avec des députés que nous espérons courageux pour porter haut et fort la défense de la vie. Nous sommes dans une attitude de veille sur ce qui va se jouer dans les heures, dans les jours qui viennent.
Et si l'amendement sur le délit d'entrave à l'IVG est adopté par les députés, comment allez-vous réagir ?
Bien évidemment, nous ne nous laisserons pas bâillonner et nous continuerons à informer les femmes sur la vraie réalité de l'avortement avec ses conséquences physiques, psychologiques. Et nos associations continueront à œuvrer, parce que c'est là qu'est la priorité, auprès de ces femmes enceintes en difficulté, pour les écouter, pour leur offrir des centres d'accueil, pour leur dire que la solution de l'avortement n'est pas la seule issue.
Est-ce que la visite de François Hollande auprès du pape ce vendredi vous donne l'espoir d'un infléchissement de la position du président de la République et donc de la position gouvernementale sur ces questions éthiques ?
Le pape François, qui nous a fait l'honneur de sa bénédiction pour notre marche, saura, nous en sommes certains, insuffler à François Hollande les vraies paroles de vérité. Maintenant, est-ce à dire que nous serons entendus ? On a pu voir quand même que l'an dernier, avec 1 million de manifestants, plusieurs fois de suite, François Hollande restait totalement sourd à nos revendications. Je pense qu'il faut que l'Esprit Saint souffle très fort.
Virginie Mercier, porte-parole de la Marche pour la Vie, interrogée par Cyprien Viette. La Marche pour la Vie est organisée à Paris chaque année depuis 2005 par une quinzaine d'associations autour de la date anniversaire de la loi de 1975 qui a légalisé l'avortement en France. Plus de 220 000 avortements sont pratiqués chaque année en France, où l'IVG est intégralement remboursé depuis janvier 2013. Environ une Française sur trois a recours à un avortement au cours de sa vie. Toujours en France, les tensions suscitées par les sketchs antisémites de l'humoriste Dieudonné semblent s'apaiser, depuis qu'il a expurgé son spectacle de ses paroles les plus outrancières. Après un bras de fer politico-judiciaire avec le gouvernement, Dieudonné reste néanmoins sous surveillance et demeure un personnage ambigu et très controversé. Alors jusqu'où peut-on aller dans l'humour ? En quoi Dieudonné n'est-il pas un comique comme les autres ? Xavier Sartre a posé la question au philosophe Olivier Mongin, directeur de publication de la revue Esprit et auteur de plusieurs ouvrages sur le rire.
Qu'est-ce qui dérange véritablement ? Bien entendu, c'est la focalisation de ces sketchs depuis quelque temps sur l'antisémitisme et la Shoah. Il est dans un comique qui s'inscrit dans ce qu'on appelle la concurrence victimaire. Et sa question, c'est pourquoi on peut rire des Noirs, on peut rire des Arabes, on peut rire des musulmans, on peut rire des Belges, mais pourquoi on n'a pas le droit de rire des Juifs dès lors que se pose la Shoah. C'est-à-dire que ce qu'on appelle la concurrence victimaire, c'est l'idée que pourquoi est-ce que des gens seraient plus victimes que les autres et pourquoi est-ce qu'à ce titre-là, nous n'aurions pas le droit de se moquer d'eux comme on se moque des autres. Voilà.
Qu'est-ce que cet humour, ou ce soi-disant humour, révèle de la société française actuelle ?
Cet humour révèle deux choses. D'une part, qu'aujourd'hui, le comique, c'est là-dessus que j'avais écrit des livres, est très souvent un comique lié au problème identitaire, donc lié au problème migratoire, et donc aux problèmes raciaux, problèmes donc d'appartenance. On avait un comique politique très fort en France qui visait le pouvoir, etc. Et depuis, d'ailleurs, depuis Coluche, depuis quelques années, le comique s'est déplacé sur ce qu'on peut appeler le terrain identitaire. Mais là, il faut noter qu'on a un peu un bras de fer entre la classe politique, incarnée aujourd'hui par Manuel Valls, et ces comiques qui réclament la liberté d'expression totale, mais qui, d'une certaine manière, jouent un peu de ce bras de fer. Est-ce que le ministre a raison ou non de forcer les choses avec Dieudonné ? Bien entendu que Dieudonné joue de ce qu'on peut appeler strictement l'antisémitisme. C'est pas la peine de faire semblant, il suffit de voir ses sketchs. Mais le problème, c'est de savoir aujourd'hui dans quelles conditions on respecte la liberté d'expression. La France, c'est pas les États-Unis, mais les problèmes se posent. Donc on a à la fois une politisation du problème identitaire et on a la confirmation par le comique que le problème identitaire est devenu très important, qui est plutôt un signe de fragilisation de la vie politique en France.
Est-ce que cette affaire Dieudonné est une simple question de liberté d'expression, selon vous ?
Non, ce que révèle effectivement Dieudonné, c'est que il y a l'idée partagée par beaucoup de gens, par le public aujourd'hui, qu'on peut rire de tout, à tout propos, n'importe comment, etc. Les enquêtes montrent aujourd'hui que le public de Dieudonné est un public qui souvent se dit très loin de l'antisémitisme, que c'est pas son problème, mais en même temps, c'est le même public qui va rire à Dieudonné, parce qu'on a le droit de rire de tout. Je pense au contraire que on ne rit jamais de tout, qu'il y a des limites. Je prendrai qu'un exemple, qui est celui de ce qu'on appelle les tournantes en français, c'est-à-dire les viols dans les caves, etc. Il est évident qu'il y a encore une vingtaine d'années, Coluche ou d'autres faisaient des sketchs sur les tournantes. Aujourd'hui, il est inimaginable qu'un public féminin supporte les sketchs sur les tournantes.
Si l'humour de Dieudonné est identitaire, communautaire, se réfère à certains groupes spécifiques de la société française, comment expliquer que ce comique ait autant d'écho ?
Il a autant d'écho parce qu'il correspond à un problème français qui est le fait de savoir qui on accueille, avec qui on vit, un problème qui se pose aussi en Italie, etc. Dans le livre que j'ai pu faire, j'ai montré que les principaux comiques aujourd'hui sont des gens issus de l'immigration, c'est pas un hasard. Vous avez Gad Elmaleh qui venait du Maroc, qui est passé par le Canada, donc c'est des gens qui ont bougé. Vous avez Jamel Debbouze, qui est le comique le plus connu, qui vient du Maroc, qui a vécu dans les cités. Donc c'est un comique qui joue un peu du passage d'un endroit à l'autre, d'une identité à l'autre, etc. On pourrait prendre l'exemple aussi moins connu de Fellah, qui est un très grand comédien venu d'Algérie. Dieudonné, pendant un temps, a incarné un petit peu le comique propre à la communauté black, hein, la communauté noire africaine, antillaise en France, et il joue de ça. Le grand problème du comique, c'est de créer toujours des tensions. C'était le cas de Charlie Chaplin, quand à la fin du Pèlerin, il se promène sur la bande frontière. Il se promène sur la bande frontière, il est d'un côté ou de l'autre, il est tendu entre deux mondes. Le problème de Dieudonné, c'est que lui, il est dans un monde pour attaquer l'autre. C'est un boxeur, c'est quelqu'un qui fait du punching ball, et il attaque fortement. Or, le problème du comique, c'est justement d'être fragile, d'être sur la ligne frontière, mais de pas faire la guerre. Dieudonné est un comique guerrier qui vise son ennemi. Or, les grands comiques, on le voit chez Buster Keaton, chez Chaplin, Jamel, Fellah, sont des gens qui jouent des identités les unes par rapport aux autres. Là où Dieudonné force les choses et pose des problèmes, c'est qu'il attaque de front. Il attaque pas de front n'importe quoi, il attaque effectivement la population juive et à travers la population juive, sa victimisation à travers la Shoah. D'une certaine manière, c'est un comique guerrier, donc c'est un comique qui n'est pas drôle. Le comique, c'est quelque chose qui met en tension, c'est pas un comique de boxeur. Au début, quand on revoit certains de leurs sketch, Elie Semoun incarnait le juif et lui il incarnait le black des cités. On voit que c'est un comique de confrontation, un comique un peu de punching ball. On voit très bien que ça devait mal finir, c'est-à-dire qu'à un moment, ça devenait extrêmement violent et il se cassait la figure. Le problème du comique, c'est qu'il ne peut pas se permettre de devenir violent, de devenir guerrier. Et nous avons avec Dieudonné un comique qui n'est pas drôle pour moi, car c'est un comique guerrier.
C'était Olivier Mongin, directeur de publication de la revue Esprit et auteur de plusieurs ouvrages sur le rire. La COMECE, Commission des épiscopats de la communauté européenne, organise ce mardi une conférence sur le repos du dimanche au siège du Parlement européen à Bruxelles. Les épiscopats du vieux continent ont multiplié les initiatives visant à préserver le dimanche en tant que journée consacrée à Dieu et à la vie familiale. Un collectif regroupant différents organismes, dont la COMECE, demande que le modèle social européen soit centré sur l'homme et pas sur la consommation et sur le marché. Au Québec, un projet de loi qui divise la population et suscite la polémique a fait l'objet d'audiences publiques à l'Assemblée nationale avant d'être soumis à l'étude et au vote par les députés. Il s'agit du projet de loi visant à instituer une charte des valeurs qui consacre la neutralité religieuse de l'État québécois et balise les demandes d'accommodement. Presque tous les groupes de la société se sont positionnés, entraînant manifestations et prises de position publiques de la part de diverses personnalités. Ainsi, l'archevêque de Québec a remis en question la pertinence de ce projet de loi. Monseigneur Gérald de Lacroix, qui sera créé cardinal par le pape François le 22 février prochain, a regretté l'intention du projet de loi d'interdire le port de signes religieux ostentatoires à tout employé de la fonction publique. Il a rappelé que la liberté de pouvoir exprimer sa propre foi en privé ou en public était un droit reconnu par la Charte des droits et des libertés. Le cardinal désigné s'est dit préoccupé par les divisions semées par ce débat qui, au lieu de rassembler, à susciter la suspicion. Selon lui, la société québécoise doit permettre aux individus d'exprimer leurs valeurs et de s'identifier comme croyants ou non-croyants. Jusqu'au 25 janvier en France, la délégation catholique pour la coopération rassemble 56 futurs volontaires avant leur départ imminent en mission. Présente dans une soixantaine de pays, la DCC accompagne chaque année 500 volontaires. Ils agissent dans tous les domaines de développement et dans tous les types de métiers. Ces jours de préparation au départ s'inscrivent dans le cursus de formation et d'accompagnement mis en œuvre par la DCC. Au programme, contexte géopolitique, culturel et religieux du pays de mission, formation formation par métier, module sur la vie affective, atelier sur la gestion de conflits, tant spirituels. Le stage se terminera par une messe d'envoi. Alors que les volontaires s'envoleront pour rejoindre leur lieu de mission, plusieurs dizaines d'anciens, rentrés en France depuis quelques jours ou plusieurs semaines, se retrouveront à Lyon pour un grand week-end de retour, suivi d'une journée optionnelle de préparation à la recherche d'emploi. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivie, mais je vous invite à nous retrouver également sur internet www.radiovaticana.va ainsi que sur Facebook Radio Vatican en français.